One, two, ten, check. It's okay. That's it, man.
Provoscopiennes et provoscopiens, bienvenue dans l'émission diffamante de la bande FM. Le loup vous salue en vous conviant, comme chaque semaine, à pénétrer dans l'antre des belettes. Et faute de renard, parti vaquer vers quelques pyramides vacancières, le tigre de la maison est lâché aujourd'hui. Et je vous dis pas, devinez, elle est là dans nos studios, blonde comme les blés, bleue comme une débutante.
Marine Le Pen, bonjour et bienvenue sur les ondes de Divergence. Vous la connaissez, cette chanson de Philippe Catherine, bien évidemment. Putain, je le crois pas. Un petit préambule avant de démarrer cet entretien qui va être diffusé aussi sur Radio Campus Montpellier. Un petit préambule avant de démarrer pour les mauvaises langues montpelliéraines. Toutes et tous les candidats à l'élection présidentielle sont les bienvenus sur notre antenne. Et je voulais juste, avant qu'on démarre cet entretien, Madame Le Pen, lire l'article. Article 2 des statuts de divergence afin de mettre tout le monde au poil là-dessus. Vous, peut-être, vous n'en avez pas besoin, mais nous, c'est important de faire ce petit préambule. L'article 2 des statuts de notre radio stipule que Divergence FM ne se réclame d'aucun parti politique, d'aucune religion, d'aucune église et donc un dogme religieux. Nous sommes donc pas apolitiques, mais apartidaires assurément, et c'est donc avec plaisir que nous vous recevons aujourd'hui pour un entretien qui va, si vous êtes d'accord, s'articuler autour de votre livre « Pour que vive la France ». Allez, c'est parti.
Madame Le Pen, bonjour.
Bonjour.
Recevez nos hommages divergents. Nous vous proposons durant une heure une conversation. Exercice utile, voire indispensable de la vie en société. Vous le savez sûrement, depuis le Moyen-Âge, conversation rime avec fréquentation. Alors si vous le voulez bien, nous allons nous fréquenter. Le temps d'une émission, le temps d'un provoscopie. Converser revient à échanger des propos familiers, comme il était d'usage dans l'entourage du roi de France, François Ier. Mais converser, c'est aussi proposer un entretien savant, en évitant qu'il ne devienne précieux. Converser, c'est enfin provoquer un entretien entre personnes responsables, en petit comité et à huis clos. Ça, c'est la version diplomatique, celle que nous avons choisi d'avoir avec vous aujourd'hui. Marine Le Pen, candidate, femme et mère, telle que vous vous définissez, est née au lendemain des barricades. En 1968, sous l'œil attentif de votre père, vous grandissez à la faculté d'Assas, réputée pour ne pas être un nid gauchiste. Peut-être faites-vous en compagnie de vos amis de promo le coup de poing hebdomadaire avec les marxiens de Jussieu. Toujours est-il que vous brillez, et après un DEA de droit pénal, vous ouvrez votre cabinet avant de fonder le service juridique du Front National, alors que vous devenez trentenaire. Il se dit que c'est grâce à vous si Bruno Maigret a été renvoyé sous les ponts et chaussées. Depuis, vous tentez de dédiaboliser le parti de votre père. Toujours est-il que vous lui succédez lors d'un congrès, l'année dernière, en 2011, dans la bonne ville de Tours. Vous savez, c'est celle qui vit la création de la section française de l'Internationale communiste, ancêtre du Parti communiste en 1920. Un hasard ? Ou un virage à gauche de ce parti qui avait déjà, en 1972, pris le nom d'un grand mouvement de résistance durant la guerre, mouvement qui était d'obédience plutôt communiste. Quoi qu'il en soit, après avoir ramé depuis votre paquebot, vous avez fini par réunir les 500 présentations appelées à tort parrainage, ce qui vous autorise à vous présenter à l'élection présidentielle du 22 avril et peut-être à celle du 7 mai, à voir. Mais avant tout, permettez-moi de vous présenter les prédateurs qui siègent autour de la table, ainsi que le déroulement de l'émission. Avec moi, en votre compagnie, notre tigre et responsable éditorial, Christian Coste. Avec nous aussi, un renard venu des Hauts-Cantons et Rolleté, Adrien Delgrange. Ils entreront, domestiqués qu'ils sont, dans la conversation. Mais de quoi diable allons-nous parler ? De votre livre, Pour que vive la France. Mais encore, de votre livre. Une conversation historienne avec le loup que je suis, un entretien, on va l'appeler sociologique, avec le tigre qui est notre directeur d'antenne, Christian Coste, et quelques apostrophes rupestres comme pivot radiophonique venant de Adrien Delgrange. Et c'est parti pour 60 minutes de divergence. Alors on va parler du livre, Marine Le Pen, si vous le voulez bien. Ce livre, c'est d'abord une couverture christique, noire et blanche, sur fond d'écume de mer. Marine Le Pen sortie des eaux, telle Moïse, se livre pour promouvoir une vraie révolution pacifique et démocratique. Au siècle des Lumières, il aurait été dit de vous que vous incarniez l'opposition. Aujourd'hui, on parlera plus volontiers d'oxymore. Comment diable pratiquer une révolution de façon pacifique? En votant? Et quid d'une révolution qui ne serait pas démocratique? Au mieux une tyrannie? Quoi qu'il en soit, au terme des 250 pages de votre profession de foi, trois éléments majeurs apparaissent clairement. Vous livrez votre vision, peut-être vintage, de l'histoire. Vous vous révélez être une sacrée bonne femme. Et la succession de vos mots, M-O-T-S, dévoile les mots, M-A-U-X, d'une France, la vôtre, pour en proposer une autre. Une autre France peut-être mythifiée, au moins nostalgique, de ce qu'elle fut, selon vous, dans le passé. Bah, commençons donc, s'il vous plaît, par votre vision de l'histoire. Dans votre livre, 250 pages, vous citez 161 grands personnages et quelques 53 dates qui vous semblent des dates clés. Bon, c'est une chose qui est claire, Sarkozy est votre tête de Turc, 63 citations. Mais on y trouve, dans le tiercé, hors Sarkozy, De Gaulle et Maurice Allais, qui font donc le tiercé. Alors là, pourquoi ces trois personnages-là vous intéressent autant? Sarkozy, on peut botter en touche. Mais De Gaulle, d'une part, et Maurice Allais.
De Gaulle, parce que je pense que c'est le dernier personnage qui a eu une véritable vision de la France. Depuis, nous se sont succédés à la tête de l'État des gens qui, manifestement, avaient plus comme ambition l'intérêt d'eux-mêmes que l'intérêt supérieur de la nation. De Gaulle avait cette vision de notre pays, de son avenir, de sa puissance, du rôle que la France avait à jouer dans le monde. Mitterrand était un homme extrêmement lettré, mais qui déjà a ouvert la porte au copinage, à l'utilisation du pouvoir pour des intérêts personnels. Et puis, ça a été de pire en pire au fur et à mesure, jusqu'à Nicolas Sarkozy, dont effectivement je dresse un tableau assez aride, dirons-nous, parfois même cruel.
Et 63 occurrences, 63.
Oui, mais c'est un peu normal, il est président de la République. D'accord. Par conséquent, il est assez légitime, lorsqu'on rentre dans une campagne présidentielle avec un président sortant, de venir lui demander son bilan et de
pour
faire...
le sortir.
Et de faire, exactement, et de faire le constat de ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Quant à Maurice Allais, c'était un personnage frappant puisqu'il a été le seul prix Nobel d'économie français et c'est probablement la raison pour laquelle il a été immédiatement collé dans un placard, que plus personne n'a fait référence à lui et qu'on le traite avec le plus grand mépris. Il avait pourtant prévenu de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il était un ardent opposant à la construction européenne telle qu'il la voyait et évidemment à l'ouverture totale des frontières telle que nous la subissons depuis déjà un certain nombre d'années.
Alors, parmi tous les personnages que vous citez, j'ai trouvé quelques surprises. On y voit Jean-Paul II, Bossuet, Bainville. Tiens, Bainville. Pourquoi Bainville? C'était un historien monarchiste, le garçon.
Oui, mais vous savez, moi, on a été très étonnés de voir tous ces personnages cités dans mon livre. Je cite Marx aussi.
J'allais y venir.
Exact. Je cite Marx. Je pense qu'il y a des pensées qui sont profondes, quels que soient d'ailleurs les personnages qui peuvent les émettre. Et ça n'est pas parce qu'on cite un propos avec lequel on est d'accord qu'on est d'accord avec l'ensemble de l'idéologie qui peut être développée par le personnage en question. Moi, j'ai toujours dit une chose très claire et je crois que ça me construit aussi. De mon pays, de son histoire, je prends tout. Tout. Voilà. Je ne suis pas comme nos dirigeants actuels qui veulent saucissonner notre histoire pour n'en prendre que les bons moments et en retirer les mauvais. Moi, je prends tout. Le piteux comme le glorieux, le génial comme le critiquable. Je prends tout dans l'histoire de mon pays, je prends tout dans les personnages qui ont fait cette histoire, qui ont construit ce que nous sommes aujourd'hui, cette civilisation dont je considère qu'elle est véritablement... un aboutissement et que je vois s'affaisser, s'effondrer, reculer, régresser.
Et parmi tous ces grands personnages, alors justement, qui ont fait la France, il y en a un, je m'étonne, Albert Ier, le roi des Belges. Je pensais qu'il n'y avait qu'à Sainte-Adresse, banlieue du Havre, qu'on le connaissait encore, Albert Ier. et je m'aperçois que vous le connaissez aussi. Pourquoi vous avez fréquenté Sainte-Adresse du côté du Havre ou...
Non, non, pas particulièrement. Mais pourquoi pas, encore une fois, Mendès France et beaucoup d'autres.
Alors oui, bah, tous les grands personnages, il y en a trois que vous n'avez pas cités dans votre livre. Là, ah. Je m'étonne. Enfin, certainement plus que trois, mais trois quand même principaux. Clovis, Saint-Louis et Pétain.
Oui, effectivement.
J'en prends trois comme ça, en vrac, hein. C'est complètement par hasard. Hein, par hasard, hein.
En vrac, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai pas dû citer Jeanne d'Arc non plus.
Si,
ah, si, ah bon,
si, si, Jeanne d'Arc,
j'en
vous
parle.
Le citez. Charlemagne, Philippe le Bel.
J'en parle.
Philippe le Bel, mais on y reviendra après sur Philippe le Bel. Mais Clovis et Saint-Louis, par exemple, pourquoi vous ne les citez pas?
Parce que ça ne rentrait pas dans l'analyse que je fais. Quel est l'objectif de ce livre? Parce que si on le prend comme ça, encore une fois, lui aussi en le saucissonnant, on ne va pas bien comprendre quel est le sens du livre. Ce livre a deux grandes parties. La première partie, je l'ai voulu comme une grille de lecture. L'idée, c'est de dire qu'une crise qui dure 40 ans n'est pas une crise. Qu'en réalité, il y a derrière cela un système qui a été construit, voulu, soit par cupidité, renforcé par le laisser-faire, la lâcheté, souvent l'intérêt. Et je voulais que les Français puissent comprendre et agir, c'est-à-dire juger. Or, pour juger, il faut qu'en toutes circonstances, ils se posent la question de savoir qui parle, d'où parle-t-il ? Et au soutien de quels intérêts parle-t-il ? Or, je crois que c'est peut-être la chose la plus mystérieuse dans notre pays aujourd'hui, c'est que les Français ne sont pas informés des liens qui existent entre les uns et les autres et des raisons pour lesquelles un tel ou un tel prend des positions. Lorsqu'on décortique et lorsqu'on sait d'où parlent les gens, eh bien, très rapidement, on comprend le sens des propos qui sont tenus. Et la deuxième partie se veut... Alors, je ne suis pas rentré d'ailleurs, ce n'est pas un programme politique. Hein. Pour que vive la France, ce n'est pas un programme en disant, bon voilà, pour la formation professionnelle, il faut ça. Ce sont des grandes lignes. Voilà. C'est une sorte, la deuxième partie est en quelque sorte une boussole. Une boussole pour que les Français sachent vers où je veux les mener. Parce que vous remarquerez avec moi que dans cette campagne présidentielle, où veulent nous mener les uns et les autres, on a quand même du mal à le comprendre.
Oui, mais justement, le fait d'où on part, et le d'où on part, ben oui, d'un certain nombre de personnages historiques ou de grands personnages. Et là, ce sera la dernière chose au niveau des personnages. Mais quand même, j'ai été interloqué d'y retrouver De Funès et Dalida. Et si, je me demande si De Funès est votre référent cinématographique et Dalida votre référent au niveau discographique.
Et pourquoi pas, bah,
Là, ce serait votre côté mitterrandien avec Dalida, alors.
Et pourquoi pas, oui, mais j'aime beaucoup Dalida. Vous voyez, ça prouve d'ailleurs que je suis très loin de l'image qu'on cherche à me donner de quelqu'un de xénophobe ou je ne sais quoi d'autre, crétinerie qui sont régulièrement déversées en ce qui me concerne. Mais j'aime tellement Dalida que je l'ai même chantée, alors c'est pour vous dire.
On va pas vous faire le coup que vous nous la chantiez, mais enfin...
Non, je l'ai fait déjà.
Parlons un petit peu chronologie. Et au niveau des dates que vous citez dans votre livre, il y a une date qui revient constamment, c'est 1973. À propos de la fin des Trente Glorieuses, donc du début de la crise économique, et puis surtout à propos de cette loi de janvier 1973 qui a priori vous chiffonne. J'aimerais bien qu'on revienne sur cette loi de 1973. C'est quoi exactement cette loi qui vous chiffonne autant ?
C'est la loi qui a mis en place la captation de la richesse produite par les Français au bénéfice des grandes institutions financières. Avant 1973, le public finance le public, le privé finance le privé. C'est-à-dire que la Banque de France, qui bat la monnaie, prête au Trésor sans intérêt ou à un taux d'intérêt très faible. C'est l'argent des Français. Il est utilisé pour faire des investissements structurants, routes, hôpitaux, écoles. Et effectivement, les intérêts versés sont proches de zéro. Quant au marché financier, il finance les entreprises privées. En 1973, tout change. On interdit à la France on interdit à la Banque de France de prêter au Trésor sans intérêt et on crée au bénéfice des marchés financiers un véritable monopole. Quelle a été la conséquence de cela ? Eh bien, écoutez, la conséquence, c'est qu'en 40 ans, nous avons versé 1 400 milliards d'euros d'intérêts alors que nous avons 1 700 milliards d'euros de dettes. Ça veut dire qu'on a organisé purement et simplement le vol des Français par les marchés financiers, par les institutions financières et bancaires, au travers des intérêts toujours plus importants qui étaient demandés des emprunts que l'on faisait auprès d'eux. Qu'est-ce que ça veut dire au fond ? Ben, ça veut dire que cette loi n'avait pas été votée, nous aurions aujourd'hui, en euros constants, 300 milliards d'euros de dette, c'est-à-dire une dette absolument dérisoire. Ça remet en cause tout le système que je démonte d'ailleurs dans mon livre de culpabilisation des Français qui a consisté à leur expliquer pendant des années qu'en réalité, ils étaient des assistés, que le système de protection sociale qui avait été construit était intenable sur le plan financier et qu'il fallait pas qu'ils s'étonnent de voir une dette augmenter puisque par définition, l'indemnisation du chômage, de la maladie, les allocations familiales, tout cela évidemment nous explique les ultralibéraux, ça n'était pas tenable. Or c'est tenable. C'est tenable et c'est ce que je viens dire. Je dis que ce qui est pas tenable, c'est justement le monopole qui a été accordé au marché financier. Si nous ne l'avions pas fait, nous pourrions continuer à avoir la retraite à 60 ans. Nous pourrions continuer dans cette voie, ce chemin du progrès qui a été celui de la France, chemin qui s'est arrêté aujourd'hui. Et quand un pays n'avance pas, eh bien il recule. C'est exactement ce qui se passe.
Alors, après la chronologie, si vous voulez bien, avant que je passe la parole à Adrien, parlons un tout petit peu géographie. Et dans votre livre, vous citez quantité de pays. Par contre, ce qui est assez amusant, c'est qu'au niveau des pays de l'Union européenne que vous citez, vous citez la totalité des 12 premiers pays qui ont fait la CE, et vous ne citez jamais, nulle part dans votre livre, ceux qui sont rentrés dans la CE, et dans la CE et dans l'Union européenne, au-delà de ces 12. C'est un oubli, c'est volontaire, vous considérez... Parce que, par exemple, vous parlez des pays de l'Est en vrac, comme s'ils étaient encore de l'Est, qu'ils n'étaient pas de l'Union européenne. C'est que vous considérez qu'ils n'ont rien à faire dans l'Europe ou au contraire ?
Oh, je crois qu'il faut dire les choses clairement. On a opéré un élargissement très rapide de l'Union européenne dans des conditions catastrophiques, complètement ubuesques. On a fait entrer dans l'Union européenne des pays qui n'avaient pas du tout le niveau économique pour y entrer, le niveau de développement pour y entrer. Et évidemment, on le paye aujourd'hui très lourdement. Bon, donc, et ça, c'est parce que la grenouille voulait se faire plus grosse que le bœuf. Hein. Faut tout de même se souvenir de ce qu'on nous racontait au départ de la construction européenne et au départ de l'euro d'ailleurs, qu'on allait pouvoir enfin affronter le dollar, qu'on allait faire la zone économique la plus puissante du monde. Et qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ? Il n'y aurait plus de chômage, etc., etc. Et puis, ça s'est avéré être une énorme grosse méduse molle, dont les résultats sont juste dramatiques sur le plan économique et social, qui a fait de ce continent très riche, un continent au bord de la faillite aujourd'hui, avec une zone monétaire qui a eu la croissance la plus faible du monde depuis 10 ans. Bon, ça ne peut être qu'une parenthèse, après tout. Cette construction, ça a été une erreur. On en voit les résultats. Le problème, c'est qu'entre-temps, c'est devenu, et ça, je crois que je le dénonce de manière très claire, parce que c'est la vérité, une religion. L'Union européenne, l'euro est devenu un dogme religieux. D'ailleurs, ceux qui critiquent l'euro sont accusés de blasphème. Ils sont traînés devant le tribunal des adorateurs de l'euro, hein, espèce de secte étrange, et aucune critique n'est possible sur cette construction. Parce que derrière tout ça, il y a aussi des intérêts qui sont des intérêts puissants.
La question des hauts cantons, Adrien Delgrange.
Alors, dans l'histoire de France, on peut aussi noter la libéralisation des ondes voulue par François Mitterrand en 1981. Si je ne m'abuse, vous ne parlez pas des radios associatives dans votre livre. Vous vous exprimez aujourd'hui sur ce média. Que feriez-vous pour les radios associatives en cas d'accession au pouvoir, Marine Le Pen ?
D'abord, je leur laisse leur liberté. Parce qu'il y a beaucoup de radios associatives qui veulent conserver leur liberté. À ce titre, d'ailleurs, elles ne veulent pas, pour certaines d'entre elles, être soutenues sur le plan des subventions publiques. Parce que beaucoup sont conscientes qu'au travers de ces subventions, c'est une sorte de clientélisme qui a été mis en place. Et l'enfer est pavé de bonnes intentions. La libéralisation des ondes a été une très bonne chose. Moi, je suis de façon, en toutes circonstances, un défenseur de la liberté. La liberté sur Internet, la liberté des radios. Mais je m'aperçois qu'en réalité, cette liberté est parfois factice. Parce qu'encore une fois, le développement des féodalités régionales, départementales, fait que beaucoup de médias sont en fait tenus, sont entre les mains du pouvoir, soit du pouvoir politique par l'intermédiaire de subventions, soit du pouvoir financier par l'intermédiaire de la propriété de grands médias, hein, comme TF1, etc., etc.
Et pour parler des radios associatives, vous les maintiendrez ?
Bien sûr que je les maintiendrai. Il n'y a absolument aucune raison pour qu'elles ne soient pas maintenues. Il n'y a aucune raison pour qu'elles n'aient pas une liberté totale. Bien au contraire. Les radios associatives, c'est un contre-pouvoir. C'est un peu comme Internet, si vous voulez, justement. Et si de surcroît, elles ne dépendent d'aucun pouvoir politique parce qu'elles ne sont subventionnées par aucun organisme, eh bien, elles ont d'autant plus leur place et leur rôle à jouer. Hein.
Alors, si vous voulez bien, on va passer à la deuxième petite partie au niveau de la lecture de ce livre que j'ai baptisé Sacré Marine Le Pen. Bon, c'est fait, c'est plus à faire. Du passé, faisons table rase, si je puis m'exprimer ainsi. Or, la question historiographique, il apparaît, Marine Le Pen, que vous êtes une sacrée bonne femme. Je veux dire, vous incarnez parfaitement la civilisation judéo-chrétienne. Votre vocabulaire est d'essence religieuse, avec une connotation très catholique. N'est-ce pas contradictoire de s'afficher catholique quand on est opposé à l'universalisme? Je rappelle à nos auditeurs que le mot catholique vient du grec catholikos et signifie universel. Ou alors seriez-vous gallicane plus que catholique? Au cours des 250 pages de votre livre Pour que vive la France, vous utilisez 26 mots d'essence religieuse. Seriez-vous spirituel? Allez, parlez-nous un petit peu des clochers, du diable, de la Trinité, du Saint-Marché. enfin bref, tout ce qu'on trouve dans votre livre. À longueur de phrase et de paragraphe, vous croyez. Vous aimeriez que les électeurs croient en vous. Est-ce qu'ils font ça pour être crédibles?
Mais non, mais ça n'a rien à voir. Le Saint-Marché, en l'occurrence, c'est une critique que je formule justement sur le mode de ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir de la vision quasiment religieuse de ce système avec ses grands prêtres, avec une véritable inquisition, etc., etc. Non, je suis une laïque convaincue. Je suis catholique, mais je suis une laïque convaincue. Et je crois qu'en France, que l'on croit ou que l'on ne croit pas d'ailleurs, on est modelé, parce que c'est notre culture et notre civilisation, par les racines chrétiennes qui sont les nôtres. Tout d'ailleurs dans notre pays, dans notre vision, dans notre manière d'envisager les relations humaines, la conception que nous avons de l'homme, tout est imprégné de ces valeurs chrétiennes. J'ai d'ailleurs souvent dit que liberté, égalité, fraternité n'étaient en réalité que des valeurs chrétiennes qui avaient été sécularisées. Hein. L'égalité est profondément d'essence chrétienne. Elle n'existe d'ailleurs pas dans beaucoup d'autres religions. Hein. L'égalité entre les hommes et les femmes n'existe pas dans notamment la religion musulmane, si on pense à l'hindouisme, on s'aperçoit que...
Oh, l'égalité entre... Excusez-moi de vous interrompre. Non, l'égalité entre l'homme et les femmes dans le corpus chrétien et catholique en Europe,
oui, oui, mais regardez, par exemple, dans les pays musulmans, il y a encore l'esclavage.
Trois religions abrahamiques.
Il y a encore l'esclavage.
Où?
Dans un certain nombre de pays musulmans.
Ah, ça...
Voilà. Dans l'hindouisme, oui, il y a des castes. Vous savez, il y a les intouchables, etc. Mais ce n'est pas une critique, hein. C'est juste pour dire que...
Enfin, je connais des couples de Français qui ont des filles au père qui viennent de je ne sais pas trop où et qui ne sont pas musulmans et ce qui arrive quasi pareil.
Ça n'a rien à voir. Non, mais ne confondez pas les comportements individuels avec ce que la société accepte ou réprouve, parce que sinon, il n'y a plus de civilisation, si vous voulez. Si la civilisation dépend des comportements individuels des uns et des autres, alors celle-ci n'avance jamais. C'est ce que la société réprouve ou admet.
Non, mais c'est pour ne pas opposer... je sais bien que c'est...
Non, je
ne pas faire l'idiot utile, quoique, à la rigueur, ça ne me dérange pas. C'est pour ne pas opposer forcément... moi, je suis athée, donc vous êtes catholique.
Oui, mais regardez, parlons de la liberté. La liberté telle que nous la concevons, telle qu'elle est conçue lors de la Révolution, c'est la liberté individuelle. Or, cette liberté individuelle, elle est effectivement une création de la chrétienté. C'est ainsi, par exemple, dans les pays, dans beaucoup de pays du monde, hein, et notamment d'inspiration de culture musulmane, la liberté individuelle n'existe pas. C'est la communauté qui a des droits.
Pourquoi vous prenez toujours l'exemple musulman ?
Parce qu'en l'occurrence, c'est ainsi.
Oui, mais c'est
un exemple.
C'est l'archange Gabriel qui a chuchoté à l'oreille de Mahomet
Mais je ne mets pas. Mais attendez.
C'est les mêmes racines.
Non, mais vous ne comprenez pas. Si. Non, écoutez. Encore une fois, le concept de la liberté individuelle n'existe pas dans d'autres sociétés et dans d'autres cultures. Voilà, ça n'existe pas. C'est la communauté qui a des droits. L'individu n'en a pas. Voilà, c'est ainsi, c'est une construction de société, c'est une culture qui est... La nôtre n'est pas ainsi faite. La nôtre, elle part du principe que l'individu a des droits parce que l'individu a le droit de choisir.
Ce sont même les Anglais qui ont inventé ça, avec l'habeas corpus,
c'est le libre
à la fin du XVIIe siècle.
Pourquoi rejeter cela ? Ça paraît tellement évident. Tout dans notre manière de vivre est évidemment la conséquence de ce que fut notre pays, des racines chrétiennes qui sont les nôtres, qui ont construit, encore une fois, notre vision, mais pas seulement. Notre calendrier, les fêtes de nos enfants sont des fêtes calquées
non, mais c'est pas
sur
moi
le calendrier.
Moi l'athée qui veut vous dire le contraire.
Non, mais
voyez, nous avons des racines chrétiennes.
Mais voyez, ce que je veux dire, c'est que l'on croit ou que l'on ne croit pas, ou que l'on ne croit pas, on est imprégné de cette vision-là. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein.
Alors, si vous voulez bien, revenons à la politique au sens noble du terme. Faisons un petit peu de science politique. Parlons de pouvoir temporel, de pouvoir spirituel, je veux dire de démocratie et de république. Et aussi de France et de Français. Vous associez la république à la nation et aux valeurs. Est-ce que vous pourriez définir ces deux termes et surtout les valeurs ? Qu'est-ce que vous entendez par les valeurs rattaché à la République ?
Ce sont les valeurs républicaines. Liberté, comme je disais, égalité, fraternité, laïcité, ça sont les valeurs républicaines. Mais la République en elle-même ne veut rien dire. La République est une construction, une organisation de la société. Il est évident que la République, les valeurs de la République française, si vous voulez, le terme de République n'inclut pas en lui-même des valeurs. La République islamique d'Iran, la République populaire de Chine n'ont pas les mêmes valeurs que les valeurs de la République française. Hein. Donc c'est parce qu'elle est française que la République porte les valeurs dont nous parlons aujourd'hui. Il y a deux autres termes qui sont importants, c'est le terme de patrie et celui de nation, qui ne recouvrent pas tout à fait la même chose. On dit souvent que la patrie est plutôt un concept de droite, parce que ce serait la référence à un patrimoine, à un capital, hein, un patrimoine, qu'il soit d'ailleurs un patrimoine des arts, des lettres, d'odeurs.
Et puis la patrie, c'est la terre des pères, quoi.
De mode de vie.
C'est le Vaterland en allemand.
Voilà, exactement. Et la nation, dont on dit que c'est plutôt un concept de gauche et qui serait en réalité la conséquence d'une volonté ensemble de pouvoir construire. Mais sauf qu'il y a... Il n'y a qu'une tristesse, c'est que patrie et nation ont souvent été opposées dans l'histoire. Et je pense que c'est une erreur. Et si peut-être j'ai un rôle à jouer sur cette terre, après tout, ce serait peut-être de réconcilier le concept de patrie et de nation.
Et avant toute chose, votre conception de l'État. 108 fois, vous parlez de l'État. Ça semble un mot-clé pour vous. Et comment vous le voyez, l'État ? Fort. Alors là, à longueur de page, il doit être fort. Avec un chef. Alors qu'il est, selon vous, affaibli, asservi, démantelé, détruit, vous le voudriez impartial, irréprochable, on croira entendre Sarkozy en 2007. Bah, surtout, on croira entendre Napoléon III. Est-ce que vous ne seriez pas un peu césaro-papiste, Marine Le Pen ?
Bah, comme tu y vas.
Écoutez, vous pouvez me comparer à qui vous voulez, mais s'il ne vous plaît pas à Nicolas Sarkozy, parce qu'on finit par trouver que c'est désagréable. Revenons au fondement des choses.
L'État.
Si l'État, c'est l'émanation, ne tire son pouvoir que du peuple. En tout cas, dans une démocratie, le peuple est le seul souverain légitime, et le peuple exprime son pouvoir, le pouvoir qui est le sien par l'intermédiaire de l'État. L'État fort, c'est le peuple fort.
C'est la nation qui doit être souveraine.
L'État faible, non, c'est le peuple qui est souverain. C'est le peuple qui est souverain. C'est dans notre constitution, c'est ainsi, le seul souverain, c'est le peuple. Le problème, c'est que s'il n'y a plus d'État, c'est que nous sommes dans le parti, et c'est ce que je dénonce d'ailleurs, dans le retour de ce contre quoi nous nous sommes battus pendant toute notre existence de nation. Hein. Les féodalités, les privilèges, la tribalisation, qui fait que, on se retrouve avec un pays morcelé, où les pouvoirs s'entrechoquent les uns les autres et où on arrive assez facilement à ce que j'appelle la loi de la jungle, c'est-à-dire en réalité la loi du plus fort, souvent la loi du plus violent, la loi de celui qui impose ses règles aux autres. Bon. Or, il faut bien admettre que la multiplication des régions avec leurs présidents qui se prennent pour des espèces de roitelets, enfin vous êtes bien placés pour le savoir ici, ce que ça peut être, est une forme de féodalité, de retour de la féodalité. Quand l'État est faible, ce sont les faibles qui en souffrent le plus. Parce que je crois que seul un État fort est capable de mettre en place l'égalité entre les citoyens, est capable de défendre la méritocratie, est capable de donner une chance à chacun. Ça a été, et ça devrait encore être, évidemment, le rôle notamment de l'école. Donc oui, je suis pour un État fort, parce que l'État fort est celui qui fait respecter aussi l'ordre. Or, je pense que l'anarchie est là aussi le pire ennemi des plus faibles. L'insécurité, le pire ennemi des plus faibles. Le laxisme est le pire ennemi des plus faibles.
Marine nous dit ça, Le Pen, avec un petit sourire à propos de l'anarchie. Bon, ça c'est parce que, évidemment, on ne nous voit pas, on ne fait que nous entendre. Parlons un petit peu des Français. Et au niveau des Français, quand vous en parlez, moi, j'ai une chose que j'ai relevée qui m'a bien amusé. Deux fois de suite, vous dites qu'ils sont divergents. Alors, vu qu'on est sur divergence, expliquez-nous votre vision de la divergence des Français.
Remettez-moi ça dans le contexte, parce que j'avoue que...
Non, c'est presque sorti hors contexte. À propos
Français sont divergents.
À propos des Français,
de toute façon, divergence, c'est la richesse. Si on était tous en train de penser la même chose, ce serait quand même très embêtant. Bon, moi, je crois au débat. Je crois au fait de convaincre. Je crois qu'on peut avoir des sensibilités qui sont divergentes. Je pense qu'on
c'est
peut
rassurant,
avoir...
ça. C'est...
Mais bien sûr,
c'est
je crois qu'on peut avoir des parcours qui sont divergents. Je crois à la liberté individuelle, donc par définition aussi à la spécificité de chacun, dont j'entends bien qu'elle persiste d'ailleurs.
De la divergence, on arrive à la tolérance.
Après, maintenant, ce qu'il faut essayer de trouver, face à toutes ces divergences qui sont profondément humaines, ce sont des points de convergence. Et ces points de convergence, eh bien, ce qui me concerne, c'est la nation. L'appartenance à un même peuple, à une même nation, donc à un même avenir, avec une conception à peu près commune de l'histoire, et en tout cas, un apprentissage, peut-être qui soit commun, ce qui n'est plus le cas maintenant entre les générations.
Bon, maintenant, si vous voulez bien, on va passer à cette troisième partie que j'ai appelée les mots de Marine Le Pen, M-A-U-X. Marine Le Pen, votre livre « Pour que vive la France » est entaché de larmes. Rien ne va plus selon vous. Vous vous servez des mots, M-O-T-S, pour exprimer vos mots, M-A-U-X. Avant tout, êtes-vous une ancienne fumeuse ?
Pourquoi
ou encore une fumeuse, ou peut-être encore fumeuse. Non, parce que vous sentez l'enfumage partout dans votre livre. Le mot, il revient constamment dans votre livre. Vous voyez des écrans de fumée, vous soupçonnez les gouvernants de fumisterie, à croire que vous êtes dans le brouillard. Bon, trêve de plaisanterie. Le mot, M-A-U-X, qui revient tout le temps, et M-O-T-S, c'est le mot de mondialisme. Expliquez-nous cette différence que vous faites entre le mondialisme et la mondialisation.
La mondialisation, c'est un fait. Voilà, à partir du moment, comme je le dis dans mon livre, où on a commencé à commercer, à passer la rivière pour aller troquer un poisson contre un lièvre, on a commencé la mondialisation. La mondialisation, c'est aussi la conséquence de technologie qui fait que le temps, enfin en tout cas l'espace, se réduit de plus en plus. Donc on peut pas lutter contre la mondialisation, c'est une absurdité, on ne lutte pas contre un fait. Le mondialisme, c'est une idéologie qui consiste à penser que l'on doit supprimer tout obstacle au commerce. C'est-à-dire que le marché s'autorégulerait et devrait par conséquent faire supprimer tout ce qui pourrait être un obstacle à lui-même, la famille, la tradition, la culture, les habitudes, les frontières, bien sûr. Et ça, c'est un véritable totalitarisme. Incontestablement, le mondialisme, après le nazisme, le communisme, est un véritable totalitarisme dont l'objectif est de transformer de couper l'homme de ses racines, de son identité, pour viser une sorte d'uniformisation de tous, réduit au rôle de producteur et de consommateur.
Et en quoi le sarkozysme serait-il, selon vous, le stade suprême du mondialisme ?
Ben parce qu'il est complètement soumis à cette idéologie. En toutes circonstances, il considère que c'est la loi du commerce qui doit régir notre pays. D'ailleurs, vous voyez, j'ai écrit ce livre il y a déjà quand même un certain temps, et il vient encore de nous en donner un exemple, là, avec le prix du pétrole, hein. Puisque à la réponse « qu'est-ce qu'on fait face au prix du pétrole qui est devenu insoutenable ?», il répond « faut laisser fonctionner les lois de la concurrence ». Eh bien moi je ne crois pas à ça. Je pense que au-dessus de la loi du marché, il y a d'abord l'intérêt des peuples, il y a la nécessaire intervention d'un État arbitre, d'un État qui peut aussi être protecteur, qu'il y a la tradition, qu'il y a les mœurs, les codes.
Oui, vous le voulez, protecteur, solidaire, stratège, influent et solide, l'État, si
exactement,
j'ai bien lu.
Exactement, hein, exactement.
Alors, écoutez, Marine Le Pen, encore un peu, et on vous verrait en haut de l'affiche, à la mode vintage de Charles Aznavour, notre Arménien national.
À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie, le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou. Mes traits ont vieilli bien sûr sous mon maquillage, mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge, mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine, mais au fond de moi je suis sûr au moins que j'ai du talent. Mon complet bleu, il y a 30 ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte à porte, pour subsister je fais n'importe quoi. Je n'ai connu que des succès faciles, des trains de nuit et des filles à soldats, les minables cachets, les valises à porter, les petits meublés et les maigres repas. Je me voyais déjà.
Et voilà, retour dans nos studios pour la deuxième partie de l'émission spéciale Provoscopie en compagnie de Marine Le Pen pour cette petite conversation. Maintenant, c'est le boomerang divergent du tigre auquel nous allons avoir le droit avec une problématique générale. Marine Le Pen est-elle vintage ? Mais je laisse la place à notre ami et néanmoins camarade Christian Coste.
Merci Yves. Juste encore un petit préambule. J'arrête pas de faire des préambules sur les radios associatives. Je précise pour que tout le monde comprenne bien que les radios associatives sont essentiellement financées par le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, qui est une part qu'on prend sur la publicité de l'audiovisuel pour donner à des médias qui ont un travail d'intérêt général, de proximité, etc. Et financées aussi par des collectivités locales. Ça nous rend certes dépendants, mais il y a pire comme dépendance, et c'est vrai que les modèles économiques sont toujours à trouver. Hop, je ferme la parenthèse. Oui, je me disais, en lisant votre livre, surtout sur la première partie, une réflexion que je me suis faite, je me suis dit, Marine Le Pen, elle est vintage, c'est-à-dire qu'elle aime les années 50. Est-ce que ça représentait les années 50 en matière d'école, par exemple, autorité de l'école, le commissariat au plan, l'époque Mendès, De Gaulle arrive après, etc. Et puis on reprend tout ça, on a une vision sur le long terme. Ah, vous opposez ça à ce qu'a Émilie Villepin, le comité comment ça s'appelle, le comité stratégique d'orientation ou je ne sais trop quoi. On ne sait pas trop à quoi ça sert. J'ai l'impression que vous êtes un peu rock'n'roll dans votre façon de vouloir proposer un projet pour la France. Et quand je dis vintage, c'est parce que vous faites souvent référence au peuple, aux Trente Glorieuses, etc. Et vous dites « le peuple a toujours raison ». C'est ça qui est un peu rock'n'roll, parce que vous savez très bien que le peuple n'a pas toujours raison. Par exemple, si on avait demandé au peuple « est-ce que vous êtes pour ou contre la peine de mort ?», il y a de grandes chances que s'il y avait eu un petit assassinat d'un enfant quelques jours avant, le référendum aurait été « ah non, il faut remettre la peine de mort ». Donc le peuple n'a pas toujours raison.
Le peuple a toujours raison, parce que sinon, qui a raison contre lui?
Mais il y a des rendez-vous pour ça. Si vous faites un référendum sur une question, etc., c'est pas forcé que tout le monde a
raison. Qui a raison contre le peuple? Les élites? L'oligarchie? Les experts? C'est-à-dire, qui mieux que le peuple peut décider pour lui-même, peut décider pour son avenir, et à la limite... À qui peut-on plus pardonner qu'à lui de se tromper?
Mais résultat, il y a le président qui mérite le peuple.
Ok, d'accord.
Souvent, on trompe le peuple, jamais on le corrompt.
C'est imparable, le peuple a toujours raison, etc.
Bah, sinon qui? Encore une fois, sinon la dictature, sinon le totalitarisme,
il y a une différence, par exemple, vous êtes candidate à l'élection présidentielle, il y a une différence entre mettre un bulletin pour un des candidats ou une des candidates, parce qu'il y a un projet. Hein, il y a une globalité, un projet global, un cap avec, on se dit, on va choisir une ou un capitaine, une ou une commandante, je ne sais pas comment on dit, commandante. Bon, c'est difficile le masculin, le féminin dans cette langue française, ce n'est pas évident. Il y a un cap. Faire un référendum sur l'argument que le peuple a toujours raison, sur des questions très précises qui souvent demandent des connaissances profondes, des techniques sur des sujets, ça me paraît plus, par rapport à cet argument sur le peuple a toujours raison, ça me paraît plus délicat. Surtout que, bon, on est toujours dans la situation où on va dire le peuple a toujours raison, le peuple a toujours raison, et les élites d'un côté. Mais les élites, c'est bien. Regardez, le meilleur ouvrier de France, meilleur pâtissier de France, c'est une élite. C'est très bien. Vous êtes
Le problème, c'est les élites autoproclamées. C'est celles qui considèrent qu'elles ont raison contre le peuple. Mais je vous signale une chose.
Oui,
regardez, d'accord. Souvenez-vous du référendum sur la Constitution européenne.
2005.
Je ne sais plus combien d'articles il y avait, 1450. On a dit, mais jamais les Français vont comprendre de quoi il s'agit, etc. Il y a eu un vrai débat. Les Français sont saisis de ce débat. Et je crois qu'ils ont plutôt bien voté. Parce qu'en réalité, c'est eux qui avaient raison.
Mais c'est vrai qu'on n'y comprenait pas grand-chose en lisant le traité.
Oui, ils ont quand même compris l'essentiel.
Moi, je l'ai rien compris. Hein.
Ils ont quand même compris l'essentiel et ils ont refusé ce traité. On leur a imposé quand même. Et aujourd'hui, nos dirigeants sont en train de violer le traité qu'ils ont imposé aux Français. Donc, qui étaient les plus sages?
C'est vrai.
Eh bien, c'était probablement les Français. Alors, il ne s'agit pas de faire des référendums toutes les semaines. Il ne s'agit pas même d'aller, je veux dire, jusqu'au système suisse, qui est un système bien particulier. Mais permettre aux Français le référendum d'initiative populaire, c'est-à-dire avec 500 ou 700 000 signatures, pouvoir porter une question qui leur apparaît essentielle pour l'avenir au vote de la population, me paraît quand même ce qu'il y a de plus sain. Pour la simple et bonne raison, c'est que tout ce qui est fait autrement m'apparaît profondément malsain. L'aristocratie, l'oligarchie, la dictature ne me paraissent pas des solutions. Je pense donc que la démocratie est un système imparfait, mais me paraît quand même être le meilleur.
Croyez-vous que le peuple avait raison en 1940, lorsque 40 millions de Français étaient maréchalistes?
Oui, enfin, je vous signale qu'avant qu'il y ait 40 millions de Français maréchalistes, qui a voté les pleins pouvoirs à M. Pétain? D'accord, bon.
Je reviens
Qui? Les députés de la nation, qui avaient été élus par le peuple.
C'est ça, les mêmes députés. Les mêmes députés.
Non, mais c'est pour ça que le rapport
qui
au peuple.
Les mêmes députés qui ont voté la Constitution européenne, alors que le peuple avait dit non. Ben oui, parce qu'il y a un problème quand même de représentativité dans notre pays.
Je vais continuer sur le vintage. Prenons par exemple l'école. Donc vous en parlez dans votre livre, et quand je dis vintage, c'est les années 50, etc. Rétablir l'autorité du maître. Revoir ces programmes qui, effectivement, ont l'air de mettre en difficulté beaucoup d'enseignants, beaucoup d'enfants et beaucoup de parents. L'autorité. Vintage, parce que c'est l'époque où, c'était clair. État fort, justement. Donc l'autorité, remettre de l'autorité à l'école. Moi, je pense à Jean-Claude Guillebeau, un journaliste... fort honorable, hein, très intelligent, qui disait, il n'y a pas si longtemps, lors d'une conférence, quand il était venu à l'occasion de l'Agora des Savoirs à Montpellier, il parlait du sixième continent d'Internet, et il disait qu'aujourd'hui, on pouvait, attention, on pouvait, c'est pas systématique, mais se retrouver devant un élève, un étudiant, qui sur un sujet peut en savoir autant que son professeur. Alors je ne suis pas sûr que ça fasse tout ce qu'il faut, mais j'ai l'impression que vous aussi, vous voulez solder vraiment 68, quoi.
Bah écoutez, il suffit de regarder les résultats, quoi. Je veux dire, on a sacrifié des générations entières de mômes. Moi, j'ai 3 enfants. Je les ai vus galérer pour apprendre à lire, alors que ça fait quand même un certain nombre de siècles qu'on sait apprendre à lire aux enfants. Et puis, à un moment donné, il y a des pédagogistes qui sont arrivés, qui ont fait ce que j'appelle des attouchements pédagogiques, qui ont commencé à dire que tout ce qui avait été fait, c'était nul, et que la modernité voulait qu'en réalité, on apprenne le mot, mais en le photographiant. Bon, bah, moi, j'avais une gamine, elle me lisait mandarine quand il y avait marqué clémentine. Alors, ça posait quand même un problème. Et jupe quand il y avait marqué robe. Parce qu'elle avait photographié le truc, grosso modo, elle pensait que ça ressemblait à ça.
Et ça a fait,
ce sont des méthodes qui ont, encore une fois, qui ont fait des générations entières de gamins qui sont sacrifiés.
Vintage.
Alors, non, c'est pas ça, c'est la base. Donnons aux enfants la base. Lire, écrire, la grammaire, l'orthographe, les maths. Après, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent rester à ce niveau-là s'ils veulent. Ils peuvent devenir des génies. Ils peuvent devenir des écrivains. Ils peuvent laisser exprimer leur génie. Mais on ne peut pas exprimer son génie, permettez-moi, sauf peut-être dans un domaine extrêmement précis, si on n'a pas la base des savoirs qui vous permet, ce socle qui vous permet, après, de vous élever aussi haut que vous avez envie de le faire. Voilà. Et alors, c'est peut-être vintage. Alors, je suis vintage. Mais en règle générale, je suis surtout pragmatique. Vous voyez, je suis une mère de famille et je me dis quand quelque chose marche, ben c'est quand même mieux de mettre en place la chose qui marche plutôt que le truc qui marche manifestement pas.
Bon, sur l'école, vous n'avez pas trop de points de désaccord avec le MoDem et Bayrou, donc du coup, par rapport aux fondamentaux.
Oui, enfin, il y a qu'un malheur, c'est que lui a été ministre de l'Éducation nationale, qu'il a juste rien fait pendant les années où il était ministre, alors que moi, je l'ai pas été, que moi, si j'avais été ministre, j'aurais fait quelque chose.
C'est bizarre quand même, parce que vous êtes démocrate, vous vous affichez comme tel. Vous êtes chrétienne, vous affichez comme tel. Donc en fait, vous êtes démocrate chrétienne, pourquoi vous n'êtes pas numéro 2 du MoDem?
Oh.
Pourquoi vous prenez pas votre carte au MoDem? Je plaisante pas.
Non, mais je n'ai pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le MoDem est ultra européiste et je pense que c'est un modèle.
C'est la différence, vraiment.
C'est un modèle d'esclavagisme.
C'est la grande différence.
Moi je suis un défenseur hystérique de la liberté.
Fonder un vrai parti chrétien-démocrate en France. Alors.
De la liberté, de la souveraineté. Voilà. Bon. Et eux, ils sont en train d'essayer. Ils sont en train de nous mettre dans une prison, de fermer la porte à double tour et de jeter la clé. Alors ça, j'ai pas du tout envie, moi.
En parlant des autres partis, expliquez-nous, Marine Le Pen, comment vous espériez prendre le pouvoir sans faire d'alliance avec un autre parti politique?
Mais pourquoi je ferais une alliance avec des gens que
Parce qu'on sait très bien, quand on regarde les dernières élections, que vous prendriez jamais le pouvoir toute seule.
Mais je veux pas le prendre toute seule, je veux le prendre avec le peuple. Parce que je vous disais tout à l'heure, je suis une démocrate. Par conséquent, si le peuple veut pas me le donner, il me le donnera pas. Hein.
Et donc vous pensez prendre le pouvoir sans alliance?
Ah oui, en tout cas, je pense qu'il y a des gens qui me rejoindront, ça c'est sûr. Parce que je l'ai dit d'ailleurs.
La dernière fois.
Pardon?
Au deuxième tour, vous avez fait combien? 20%?
Non mais la dernière fois, d'abord, ça ne veut rien dire. La dernière fois, c'était il y a 10 ans, on est arrivé au second tour. La situation a beaucoup évolué aujourd'hui. Et je crois qu'il y a des gens, il y a beaucoup de gens de gauche qui nous ont rejoints d'ailleurs, hein, parce que ce sont des patriotes, parce qu'ils n'ont pas envie, encore une fois, de tomber dans l'européisme. Il y a beaucoup de gens qui sont des gens qui viennent de la droite, qui nous ont rejoints aussi. Bon, bah, c'est sur cette base-là que demain, on accédera au pouvoir si le peuple veut nous le donner. Mais comment voulez-vous que j'admette d'aller passer des alliances avec des gens avec qui je suis complètement en désaccord sur ce qu'ils sont en train de faire de mon pays? Ou alors on est tous des vendus, je dirais.
En faisant des compromis.
Mais comment est-ce qu'on fait un compromis dans des choses qui sont... c'est impossible de trouver un point d'accord entre ceux... Si vous voulez, essayons de comprendre, c'est ce que j'explique dans le bouquin. La droite, la gauche, ça veut juste plus rien dire. Hein. Ça participe de l'enfumage. Alors on essaye de dire, ah toi t'es de droite, moi je suis de gauche, oh, on se bagarre. Bon, en l'occurrence, ça n'a aucun sens. La vraie différence, c'est entre ceux qui croient à la France et ceux qui n'y croient plus. C'est-à-dire ceux qui pensent que la France en tant que nation est la seule à pouvoir apporter... encore un progrès en termes de civilisation, et ceux qui pensent que l'effacement total des nations, c'est l'avenir, la construction d'un empire, c'est l'avenir. Or moi, je n'y crois pas. Et dans cette construction d'un empire supranational, vous allez retrouver M. Bayrou, M. Sarkozy, M. Hollande, parce qu'en réalité, ils sont tous d'accord les uns avec
vous
les
autres. Vous avez quand même des idées dans votre livre. Moi, la première partie, la première moitié de votre livre, j'appelais Yves-Marie Le Bozec, je lui dis, mais je vais être ennuyé avec l'avenue de Mme Marine Le Pen, parce que elle est de gauche. Et c'est la deuxième partie, après je me suis dit, non, en fait, j'ai compris, elle est ni de droite ni de gauche, elle est Front National. Parce que vous parlez du libre-échange, de l'ultralibéralisme, et à propos de la pression sur de la baisse sur les salaires, c'est une connerie, etc. Vous avez quand même un discours qui, culturellement, par moment, est un peu de gauche. Mais bon, ça, passons.
C'est pas vrai, d'ailleurs, qui tient le même discours que moi en gauche? Personne.
Ah, ben si, à gauche, sur la pression des salaires,
à la
gauche...
Ne mélangeons pas tout. Hein.
Ne mélangeons pas tout, c'est vrai.
Bon, mais
passons.
Justement, mais non, mais justement, c'est intéressant ce que vous dites. C'est qu'en réalité, la gauche a tout abandonné.
Ah, mais c'est ce que je dis dans votre livre, vous le dites.
Et la gauche a trahi. Et on ne peut pas aujourd'hui être contre le mondialisme et contre l'ultralibéralisme et être pour l'utilisation de l'immigration pour peser à la baisse sur les salaires, c'est-à-dire l'utilisation d'un nouvel esclavagisme qui consiste à aller chercher des gens qui n'ont pas les moyens de se défendre pour venir les payer moitié prix dans notre pays. Vous voyez, c'est là où l'incohérence de Mélenchon est absolument total.
Alors, moi j'ai un dernier truc qui n'a rien à voir avec votre livre parce que vous n'en parlez pas. Ah. Alors vous allez peut-être me dire, celui-là il joue au couillon. C'est possible. À propos de la corrida, je me suis dit que, en fait, vous êtes contre la corrida. Et ça, c'est un scoop pour moi parce que si vous êtes contre la cruauté envers les animaux, vous êtes contre la corrida.
Oui, c'est vrai que je suis contre la cruauté, mais je tiens quand même un certain nombre de je suis conscient qu'il y a un certain nombre de traditions dans notre pays. Je me suis opposé, je vous signale d'ailleurs, à la proposition qui a été faite d'inscrire ça au patrimoine national.
Ah oui.
En disant,
oh là là.
Ça participe pas du tout du patrimoine national. C'est c'est
patrimoine immatériel.
Oui, non, mais n'importe quoi. Je veux dire, moi, dans le Pas-de-Calais, excusez-moi, la corrida, il vous ouvre des yeux grands comme des soucoupes.
Ouais, c'est le combat.
À Montpellier aussi,
c'est le combat
ni de près ni de loin. Bon, c'est une tradition régionale qui, en réalité,
est d'inspiration.
Oui, c'est vrai. Bon, voilà. C'est vrai que c'est cruel. Mais c'est vrai que c'est cruel.
Ah, ben voilà.
C'est vrai que c'est cruel. Et je pense d'ailleurs que, très objectivement, une grande partie, bon, ça va pas plaire à ceux qui aiment la corrida, mais je pense qu'une grande partie de ceux qui vont regarder la corrida vont plutôt pour voir si le taureau pourrait pas une fois de temps en temps gagner, quoi.
Ouais, mais c'est rare qu'il gagne. Mais enfin, la bouvine, la tradition en Camargue, c'est plutôt la bouvine, on les tue pas, on les excite un petit peu. Alors, je voulais juste avoir ce truc-là à cause du débat sur le halal, la cruauté envers animaux, etc. Et un truc dont je voulais vous parler aussi, alors qui est pas du tout.
Le halal, ça recouvre des réalités bien plus importantes que la simple souffrance animale.
Et je voulais vous parler par rapport à l'interruption volontaire de grossesse, vous avez déclaré que bon, il y a une partie de d'IVG dite de confort qui serait pas bon, voilà, qui serait pas remboursée. Mais moi, je me pose au-delà de ça, je me pose la question. Alors, encore une fois, je posais des trucs idiots, mais je me pose la question du débat sur la responsabilité des hommes dans la fécondation, parce que ils sont toujours sortis de là, quoi. Hein. C'est-à-dire que les femmes se sont battues pour être maîtres de leur corps. Alors après, qu'il y ait effectivement ce qu'on peut appeler de confort, je pense pas que ce soit jamais de confort de faire un IVG. Ça, enfin, moi, ça
non,
me
mais
choque.
Ça veut rien dire.
Ça me choque.
Ça me choque. Mais non, mais ça vous choque. Quand je parle de ça, je parle de quoi? Je parle de l'IVG de récidive. C'est-à-dire des femmes qui avortent 2, 3, 4 fois. Voilà, c'est de cela dont je parle. Et ça, je suis désolé.
C'est jamais par plaisir.
Non, mais écoutez, c'est jamais par plaisir, mais on peut faire autrement. Hein. C'est pas à moi que vous allez apprendre comment on fait pour faire autrement. Hein. Permettez-moi, bon, je suis une femme, je sais très bien qu'on peut faire autrement. Il y a aussi des femmes qui...
Oui, mais c'est toujours de la responsabilité des femmes.
Qui exagèrent, c'est pas ce que je dis. Qui exagèrent, c'est-à-dire qui utilisent l'avortement comme un moyen de contraception. Alors, qu'il puisse y avoir un accident, on le conçoit.
Non, mais c'est un
épiphénomène. 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est plus
non,
un accident.
C'est un épiphénomène.
C'est de la facilité. Justement, c'est tout le problème, c'est que maintenant, c'est deux femmes sur 10, c'est donc beaucoup, c'est plus qu'il y a 10 ans où c'était une femme sur 10. C'est tout ce que je dis. Je dis, voilà, il y a un moment donné, il faut responsabiliser tout le monde, et on va pas, alors qu'il y a des gens qui ne se soignent plus correctement, qu'il y a des gens pauvres, des personnes âgées qui n'arrivent plus à se soigner, dérembourser des comportements qui pourraient très bien être évités. Maintenant, vous avez raison sur la responsabilité des hommes. En règle générale, les femmes qui se retrouvent dans une situation de détresse morale telle que elles se séparent de leur enfant, c'est parce qu'en général, l'homme est parti en courant. Bon. Et vous avez tout à fait raison de dire que c'est une injustice, mais
c'est une
injustice qu'hélas, la nature n'arrivera jamais en réalité à combler. Hein, puisqu'on sait qu'il y a déjà eu beaucoup d'avancées sur le plan légal. Une femme qui veut conserver son enfant...
Non, mais la culture, oui, peut-être.
Non, mais
monsieur... Parce que la nature ne pourra pas faire,
mais regardez,
la culture pourra le faire.
Mais regardez l'inverse. Un homme qui ne veut pas d'un enfant, c'est la femme qui décide aussi. Si elle l'a contre la vie de l'homme, eh bien, la loi oblige l'homme à venir au soutien de l'éducation de cet enfant.
Le spermatozoïde n'est pas arrivé par hasard. C'est ça la responsabilité de l'homme.
Mais vous voyez ce que je veux dire.
Oui, je comprends bien.
L'inverse est vrai. Voilà, c'est ainsi. La nature est injuste. Les femmes, encore, je m'en réjouis d'ailleurs, ce ne sera peut-être pas toujours le cas, mais ce sont les femmes qui portent les enfants. Voilà.
Et oui. Un dernier petit truc. moi, je me suis dit, alors toujours pareil dans mes couillonneries, je me suis dit, Madame Marine Le Pen, ça se trouve, la finance islamique, c'est son truc.
Mais, eh bien, écoutez,
parce qu'il n'y a que vous et l'islam. Il n'y a que vous et l'islam à vouloir des prêts à taux zéro.
Mais vous savez qu'il y a une finance dont on ne parle plus, mais c'est la finance française. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une identité économique française qui a disparu, qui était effectivement une vision beaucoup plus saine et beaucoup moins cupide que la finance anglo-saxonne auquel nous nous sommes soumis. C'est vrai que la vision de l'entrepreneur, hein, du chef d'entreprise français, tel qu'on l'a connu par le passé, tel qu'il existe encore, parce qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit, est très différente de cette espèce de néo-patron, hein, des grandes boîtes du CAC 40, qui a jamais mis un sou dans sa boîte, qui a été éduqué dans les grandes écoles, qui a été coopté, qui part avec un parachute doré, y compris si la boîte se casse la figure, qui fait des licenciements boursiers parce qu'il se moque complètement de savoir qui licencie et pourquoi il licencie. L'objectif, c'est faire un profit maximum. Donc, toutes ces grandes entreprises du CAC 40 dont on peut critiquer très lourdement les moyens qu'elles mettent en œuvre pour arriver aux résultats qui sont les leurs. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils sont en train d'abîmer l'image des patrons. Encore une fois, les petits entrepreneurs, les patrons de TPE, bon ben voilà, eux, ils bossent autant que leurs salariés.
Donc la finance islamique, c'est pas une mauvaise idée de leur fonctionnement.
Non, j'ai pas dit que c'était une mauvaise idée, j'ai juste dit que c'est pas notre culture. Voilà, notre culture, c'est la finance française. Essayons de la faire revivre et ne pas avoir uniquement le choix entre la finance anglo-saxonne et la finance islamique quand même.
Bon, on arrive presque au terme là, de notre, conversation. Oui, ça va vite. Je voudrais qu'on revienne là vraiment sur la présidentielle, l'élection présidentielle. Bon, imaginons, vous gagnez, il y a les législatives. Non, il est inconcevable que le Front National, pas parce que le Front National, que ce soit le PS, l'UMP, d'obtenir 50% des sièges avec le scrutin majoritaire, etc. Donc, obligatoirement, vous serez conduite à vous allier objectivement avec d'autres. Et je reviens sur la question donc d'Adrien
Delgrange,
avec qui vous pouvez concevoir de vous allier, dans la mesure où c'est pas vous, Marine Le Pen, si c'est Hollande qui gagne, si c'est Sarko qui gagne, c'est la même chose.
Vous avez une vision qui est déformée de la démocratie, et c'est normal parce qu'elle ne marche plus depuis des années. Mais je vous rappelle qu'on n'est pas obligé de s'allier avec un parti. On peut très bien, sur chacune des propositions de loi qui sont présentées, essayer de trouver le représentant. Avec la proportionnelle. Moi, je veux la proportionnelle. Pourquoi ? Parce que je pense que la démocratie, elle est exigeante. Elle est fatigante. C'est du boulot. C'est pas, j'arrive et puis pendant 5 ans, je fais ce que je veux et je me moque totalement de l'opposition. Oui, le but, c'est effectivement de convaincre, sur chacune des lois, la majorité des Français par l'intermédiaire de la majorité de leurs représentants.
Ah, il y a du taf, hein ?
Oui, il y a du taf. Bah oui, mais il serait temps qu'ils s'y remettent à bosser. Hein, parce que, excusez-moi, mais c'est devenu méchamment confortable d'être député aujourd'hui.
Et pour terminer, la question renversée. En cas de défaite, quelle que soit la hauteur de la défaite, au premier ou deuxième tour, bon, toujours pareil, il va y avoir des législatives. Est-ce que là, vous n'envisagez pas de vous allier, par exemple, avec quelques-uns de la droite populaire, par exemple ?
Non, mais je pense qu'un certain...
Du côté de Nice,
non, mais
par exemple.
Non, mais vous ne soyez pas dupe de cet organisme commercial qu'est la droite populaire.
On peut bien faire un peu de politique politique.
Non, mais soyez pas dupe. Ils sont là pour ramener les électeurs perdus auprès de Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas d'une once de sincérité là-dedans. En revanche, il y a des élus qui sont UMP de base, dont on ne parle pas, et qui sont des gens sincères et qui, sincèrement, se sentent probablement beaucoup plus proches des positions qui sont les nôtres que de celles qui sont appliquées par Nicolas Sarkozy depuis 5 ans. Mais nous, on présentera des candidats partout aux législatives. Et puis on verra bien, encore une fois, c'est le peuple qui décidera. Mais je vous signale que la dernière fois que le Front a eu des députés, c'était en 88. Entre 86 et 88, on avait 35 députés. Et on a beaucoup apporté au débat à l'Assemblée. Donc qu'il y ait des millions de gens qui ne soient pas représentés à l'Assemblée, qu'ils soient d'ailleurs Front ou qu'ils soient NPA ou je ne sais pas quoi, c'est, moi, ça me continue à me choquer, bien sûr.
En tout cas, on est au terme de l'émission. Donc, Marine Le Pen, merci d'être venue. Vous êtes la première des candidates à venir dans nos studios. Quoi qu'il en soit,
merci de votre invitation.
Vous faites partie maintenant de l'entre-des-belettes. Vous êtes une de
oui.
nos belettes.
Et oui.
Vous reviendrez quand vous le souhaitez.
Une dernière question. Vous partez à 7 voir les pêcheurs qui sont aux abois sur le gasoil. Vous allez leur dire quoi ?
Je vais leur dire que la pêche est essentielle et que je vais être à leur côté et que moi je ne me laisserai pas dicter ce qu'on doit faire ou pas faire par Bruxelles.
Remerciements à la technique en la personne de Monsieur Bruno Bertrand. Ça y est, j'ai réussi. Semaine prochaine, nous diffuserons l'émission qui a été enregistrée le mardi 15 dans les studios de Radio Pays d'Hérault. Nous avions pour invité le président de région, Christian Bourquin. Il était interviewé par Rémi Cougnac de l'Hérault du jour. Adrien Delgrange et moi-même, le loup qui avait fait le déplacement dans les hauts cantons héroletais. En attendant, bonjour chez vous et n'oubliez jamais que la révolte n'est plus un droit, que c'est devenu un devoir. Ciao, à la semaine prochaine.